Mon invitée de la rédaction aujourd'hui est Régine Thomassy-Taïeb, consultante en communication, à propos d'un ouvrage, Le management sensible, la bienveillance au service de l'efficacité. Ça sort aux éditions Kiwi le 2 avril prochain. Régine Thomassy-Taïeb, bonjour.
Bonjour.
Alors, la bienveillance, mot et notion apparu assez récemment dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment compatible ?
Alors, c'est une bonne question et merci à Radio Judaïka déjà de m'accueillir pour en parler. Donc là, vous entendez déjà au son de ma voix l'émotion de parler de mon livre qui n'est pas encore sorti et donc vous n'avez pas encore les éléments. Alors, bien sûr, c'est compatible. Bien sûr, si on est humain, c'est compatible.
Mais c'est vrai que le monde de l'entreprise, on imagine quelque chose de... Enfin, on parle des mots rentabilité, on parle des mots efficacité. Donc c'est vrai que le mot bienveillance peut surprendre. Vous, vous avez quelques années de recul. Donc je le disais, vous êtes consultante en communication au sein de l'entreprise. C'est parti d'un constat ?
Bien sûr, c'est parti d'un constat. Je dirais presque, si j'osais dire, d'une intuition. J'ai déposé ce concept et cette marque il y a 6 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dessus avec mes clients. J'ai eu besoin d'approfondir, de réfléchir avec eux. Et puis, il en est sorti des axes de progrès, des illusions parfois aussi, qui pouvaient se concrétiser. À savoir que, quid de la relation, à partir du moment où on est dans un monde où tout devient automatique, où tout est comptabilité, où on est centré sur le profit, on en oublie parfois l'homme. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est content d'aller travailler ? Est-ce que c'est de voir votre joli sourire derrière le micro ? Est-ce que c'est le cadre de vie autour de moi ? Est-ce que c'est le chemin que je vais parcourir pour me rendre à ce travail ? Et est-ce que tout ça fait sens dans ma vie, où je suis complètement déconnectée de moi-même, de mes émotions, et je vais travailler comme une punition ? N'oublions pas l'origine du mot « travail ». Et dans ces cas-là, si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de mon équipe, je ne peux pas prendre soin des autres. Et comment fédérer du coup d'autres êtres humains dans cet état de fait ?
On est parti de ce constat qu'il vaut mieux aller bien au travail pour son entourage également, son entourage proche professionnel. À quel moment on s'est posé ce genre de questions ? Quand on a vu qu'effectivement les gens étaient moins efficaces, que des gens allaient jusqu'au burn-out ?
Ça va très très vite en fait. Un mot peut tuer. Je suis partie du constat de la communication sensible et donc un travail sur le langage et sur les mots. Alors bien sûr, moi je suis issue de l'école de Palo Alto en Californie qui dit en fait que quand on transmet une information, on donne de l'information soit, mais il se passe aussi quelque chose d'autre au niveau émotionnel. Il y a tout l'aspect non-verbal qui s'entend, d'ailleurs qui doit s'entendre aussi dans votre radio. Et puis, il y a la relation elle-même. Quand j'étais petite, par exemple, j'allais à l'école, si je détestais un prof, j'apprenais pas la matière. Là, c'est exactement pareil. Est-ce que c'est plus important d'avoir la technique et que la technique, ou est-ce que finalement, il n'y a pas une dimension humaine et relationnelle qui soutient le propos de l'entreprise et qui la soutient même dans la durée sur son marché.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'une personne dans une entreprise, si elle est mal managée, elle ne sera pas efficace du tout.
Absolument. Voilà, donc ce que je disais par rapport à l'entreprise et si je la compare au cœur humain, justement, c'est un beau lapsus, elle fonctionne grâce au moteur cœur. Regardez quelqu'un qui fait ce qu'il aime. Il rayonne, il envoie de l'énergie, il se dope d'énergie également. Et c'est comme ça qu'on peut fédérer, c'est comme ça qu'on peut communiquer, c'est comme ça qu'on peut avancer, créer. Et je trouve que l'homme fait du bien à l'homme dans ce cas de figure. Si on essaie de l'enfermer dans une boîte en lui donnant de la peur, de l'angoisse, en n'écoutant pas son émotion et qu'on a l'illusion de penser qu'il va fonctionner, il va peut-être fonctionner un certain temps jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. Et c'est un peu ce que nous dit le monde actuellement. Ça ne fonctionne plus.
Ça ne fonctionne plus. Donc vous donnez des clés dans votre ouvrage, le management sensible, à des managers, à des DRH, à tous les responsables, on va dire, d'équipe dans les entreprises. Concrètement, quelles sont ces clés ?
Alors, c'est déjà pas des clés. L'idée, moi, je questionne beaucoup. En fait, je travaille en immersion dans l'entreprise.
Donc, c'est au cas par cas.
J'observe, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et j'observe tout ce qui se passe et tout ce qui n'est pas dit. Puisque justement le principe c'est on ne peut pas ne pas communiquer, même les silences ont leur signification. Donc comment on interprète les silences, comment on les écoute, Ça veut dire aussi qu'il y a une part de non-objectivité, il faut faire avec, et puis en même temps de reformulation, d'intérêt, je m'intéresse vraiment à l'autre, à son environnement, quel rapport il a avec les autres, avec le groupe, quel rapport il a avec son environnement, quel rapport il a au monde. Et finalement, je cherche des causes profondes parce que je pense qu'on n'est pas par hasard chef d'entreprise, on n'est pas par hasard manager. Et tout ça, c'est de l'énergie qui peut faire qu'une entreprise se développe, crée, et que surtout la personne se développe au sein de cette organisation en étant en relation avec les autres.
C'est un coût pour l'entreprise, justement, cette écoute autour du salarié qui va mal ou qui pourrait simplement aller mieux ?
Ça a un coût quand on n'arrive pas à temps, parce que les dégâts sont énormes et la réparation est très longue. Or, le dérapage est ultra rapide. On le voit, un mot plus haut que l'autre, un geste, et puis c'est fini, la communication est rompue. Et pour la rétablir, il va falloir beaucoup investir. Donc, il est préférable, bien sûr, d'arriver un peu avant, de sentir les choses et de voir comment les faire progresser, comment retrouver le moteur de son action, du sens de son action pour continuer à avancer, qu'on soit managé ou qu'on soit manager.
Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que là, évidemment, on est dans des généralités, c'est peut-être, si vous permettez, sans évidemment donner le nom de l'entreprise, c'est que vous me donniez un exemple concret d'un endroit où vous êtes intervenu et que les choses se sont arrangées, parce qu'on a aussi besoin de voir le côté positif des choses. Et il y a des choses qui s'arrangent. Vous pouvez nous raconter ?
Alors, il faut que je creuse un petit peu pour vous donner un exemple concret. Alors, les choses se sont arrangées. Parfois, c'est très instinctif. Hein. Parfois, j'ai justement une des entreprises avec qui j'ai démarré en Alsace m'a fait venir simplement sur le constat de « je sens que ça va pas, je sais pas trop ce qui se passe, on a besoin de communiquer, on n'est pas bon et on a surtout besoin d'être accompagné ». Donc il y avait un beau terreau de confiance qui était bâti, mais il n'y avait pas une commande claire. Donc le premier travail, ça a été de clarifier. Et de clarifier, pas seulement avec des outils de communication, ça c'est déjà bien, mais si les outils et si les méthodes ne sont pas habitées par les êtres humains, ça ne sert à rien. Donc il y a eu un gros travail d'écoute de l'équipe dirigeante, qui d'ailleurs s'est recomposée au milieu de la mission, et qui a entraîné ensuite les collaborateurs. Je peux prendre un exemple très simple et très concret. Dans les outils de communication, il y avait une demande de séminaire interne pour l'entreprise. Bon, ça commence à se dégrader un petit peu. Le premier réflexe d'une communicante, ça aurait été de dire, ben voilà, je vais vous trouver un bon traiteur, je vais vous trouver une belle salle, et puis on va réunir tout le monde, vous allez faire votre petit discours, la voix de son maître, entre guillemets, et puis tout va aller bien après. Ben, si on avait fait ça, on serait planté. Donc en fait, j'ai plutôt proposé d'investir plus l'amont, de me mettre en immersion dans l'entreprise, de discuter avec les collaborateurs, d'animer des ateliers pour faire émerger ce qui allait, ce qui n'allait pas autour du projet séminaire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on établit une relation de confiance avec les gens ? Ils parlent, ils émettent des sons, des signaux. Toute la communication non verbale est bien sûr pleinement exprimée. Et s'ils sentent qu'ils sont entendus, écoutés, qu'on porte une attention à leur projet, forcément, ils deviennent créatifs, ils deviennent coopératifs. Et c'est eux qui ont créé le séminaire, c'est pas moi.
Et vous avez du retour après, justement, de...
Mais ils m'en parlent encore 12 ans après. En disant, quand tu es intervenu à ce moment-là, c'était génial dans la boîte, on s'entendait super bien, on a un souvenir exceptionnel de ce qui s'est passé, on a vécu des choses, et rien n'était exceptionnel. Ce qui était exceptionnel, c'était d'avoir capté cette énergie de construction et d'échange entre eux.
Alors j'ai une autre question dans le même ordre qui est très vulgarisée en matière de communication. Est-ce qu'une engueulade, ça a du bon dans le cadre du travail ?
Alors, je vais être très sincère, oui. Engueulez-vous. Ça fait tellement du bien. Bien sûr, une engueulade est nécessaire. En fait, tout le concept, c'est vraiment de se dire, de s'entendre, de s'écouter et surtout de lever les non-dits, parce que c'est là que va se loger tous les problèmes. Alors, est-ce qu'on peut dire tout à tout le monde ou à n'importe qui ? Non, il y a bien sûr quelque chose à trier. Il y a un peu de recul à prendre, mais justement, même quand on n'a pas d'idée, parfois, j'encourage simplement les équipes à parler, et autour de la parole, l'idée va germer. Alors après, il faut la capter, l'écrire, reprendre du recul par l'écriture avant de la remettre en voix, mais oui, bien sûr, il faut s'engueuler.
Et alors, ça va libérer
dans le respect, je ne dis pas tapez-vous dessus, oui. Ça c'est la limite. Mais penser, franchement, mon chef, j'ai envie de le faire passer par la fenêtre, tout à fait autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de le faire.
Oui, on entend bien, bien sûr. On va revenir à votre ouvrage pour une dernière question. Il t'en passe vite, le management sensible. À qui est-ce qu'il s'adresse cet ouvrage ?
Alors, il s'adresse à tout le monde et je dirais déjà à soi en tant qu'individu. Comment je conduis ma vie ? Comment je me questionne dans ma vie ? Comment je me développe ? Comment je deviens plus intelligent ? Comment je deviens meilleur pour moi ? Si je le fais pour moi, je le fais forcément pour l'autre, puisque ce que je partage avec l'autre, il y a un co-engagement. Je suis responsable à 50% au moins. Donc voilà, c'est, je pense que c'est utile à tout le monde. En tout cas, moi, mon travail sert ma vie privée. Et j'ai beaucoup appris grâce à ma vie privée, grâce à mes enfants notamment. Et je pense que ça communique dans les deux sens. Je m'appuie sur tout ça pour avancer.
Régine Thomassy-Taïeb, donc je rappelle, vous êtes consultante en communication. Votre ouvrage, Le management sensible, la bienveillance au service de l'efficacité, ça sort aux éditions Kiwi le 2 avril prochain. Bah, on a hâte d'être le 2 avril pour découvrir cet ouvrage. Merci à vous d'être passé nous voir et de nous avoir parlé avec sincérité du management et de la bienveillance et des mots qui peuvent très bien être compatibles, comme vous l'avez dit.
Merci beaucoup.